Salut à tous. Backseat, c'est votre émission d'actualité politique. Si tu veux faire partie des soutiens de l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description.
Deuxième sujet qu'on voulait aborder dans ces sujets d'actualité, les procès de Mazan. Le procès de Mazan, on arrive bientôt au bout de ce procès marathon. Le ministère public a requis des peines de 4 à 20 ans de prison à l'encontre des 51 accusés d'avoir violé la victime Gisèle Pellicot. La peine maximale de 20 ans a été requise contre Dominique Pellicot, accusé d'avoir drogué son épouse pour la livrer à des dizaines d'inconnus recrutés sur Internet. Le verdict est attendu au plus tard le 20 décembre prochain. Est-ce qu'on peut dire, comme Michel Barnier, qu'il y aura un avant et un après Mazan ? Léa ?
Alors, je ne sais pas ce que Michel Barnier entend par là. S'il entend que la société dans son ensemble et l'opinion publique est plus sensibilisée effectivement aux violences sexuelles et sexistes, je pense d'accord, puisqu'effectivement ce procès a permis de mettre de montrer à quel point les violences sexuelles et sexistes, c'est pas qu'on le savait pas, mais voilà, il faut aussi des procès tels que celui-ci parfois pour faire avancer les choses. À quel point les auteurs de violences sexuelles et sexistes sont finalement partout, à quel point il y a de l'impunité et autres. Le problème, c'est que moi, ce qui m'inquiète particulièrement, ce n'est pas tant l'opinion publique et la sensibilisation et la prise de conscience, que je trouve quand même relativement... Il n'y a pas le sursaut qu'on peut attendre. Néanmoins, il y a quand même une prise de conscience. D'ailleurs, les gens en parlent. Rien que ça, c'est beaucoup. Moi, j'entends des conversations de personnes qui se remettent en question, notamment des hommes qui se questionnent sur leur comportement, qui parlent de ce procès, beaucoup. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que le gouvernement ne va pas agir davantage. C'est-à-dire que les mesures qui ont été annoncées par Michel Barnier, je ne dis pas qu'il faut les jeter. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'il y a, depuis 2017 en tout cas, et depuis que les violences sexuelles et sexistes et l'égalité femmes-hommes a été érigée en tant que grande cause du quinquennat, un énorme gap, disons, un énorme fossé, entre les mesures qui sont annoncées et la réalité des moyens qui sont mis à disposition des associations qui accompagnent les victimes notamment. Je m'explique. Le budget est actuellement en discussion, comme vous le savez. Déjà, il n'y a plus de ministère consacré à l'égalité femmes-hommes et aux violences, enfin à la lutte contre les violences. C'est désormais un secrétariat d'État dans un ministère qui est plus large. Hier, pendant les QAG au Sénat, le ministre des Solidarités a été interpellé pendant les QAG à l'Assemblée nationale, le ministre a été interpellé sur effectivement la mise en place d'une loi globale, une loi cadre, et l'augmentation du budget. Puisqu'aujourd'hui, le budget consacré à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui est réparti dans plusieurs ministères, il y a un peu dans la justice, ces différents programmes en fait. Parce que le budget en soi du secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, c'est 85 millions d'euros pour 2025. Néanmoins, lorsqu'on agrège les enveloppes qui sont aussi réparties dans les différents ministères, on atteint 250 millions d'euros. C'est bien en deçà de ce qui est nécessaire pour arriver à lutter de manière efficace contre les violences sexuelles et sexistes. Ce sont des choses qui sont chiffrées. Il y a plein d'associations et d'études très sérieuses qui font état du budget qu'il faudrait. Il faut au moins 2,6 milliards d'euros.
C'était un avant.
Par an. Non. au moins un milliard. Au moins un milliard, ce serait déjà pas mal. Mais il faut, et c'est une étude qui est sortie l'année dernière, qui a été réalisée par la Fondation des Femmes, au bas mot, 2,6 milliards d'euros. Donc on est quand même très, 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 très loin. Mmh. Donc la réponse du ministre hier était, alors, on ne veut pas de cette loi cadre, il y a suffisamment de lois, et il faut qu'on se consacre à leur application, on ne va pas non plus aller dans la surenchère législative. Ce qui est quand même assez intéressant, parce que quand il s'agit d'immigration, alors là, il n'y a pas de problème. Ils peuvent nous sortir des lois tous les trois matins, pas de souci. Il n'y a personne qui cligne des yeux. Et par ailleurs, sur l'augmentation du budget, il a dit que le budget du ministère des droits des femmes, enfin du secrétariat d'État, avait augmenté de 10%. Donc on est très 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 loin de ce qui est nécessaire pour lutter efficacement, non seulement contre les violences sexuelles et sexistes, mais plus globalement contre la culture du viol. Encore un petit élément qui, moi, m'inquiète, Il y a plusieurs leviers. Il n'y a pas que le levier répressif, évidemment, pour lutter contre la culture du viol ou juridictionnel. Il y a aussi l'éducation. Et il se trouve que depuis 2001, la loi prévoit 3 cours d'éducation à la vie sexuelle et affective pour tous les élèves de la maternelle à la terminale.
Ils ne sont pas assurés.
Ce n'est pas assuré.
Non. Alors qu'ils n'ont déjà pas d'histoire géo. Donc...
Il y a eu un rapport du ministère de l'Éducation qui a été rendu en 2023 et qui justement souligne le fait qu'il y a un manquement important dans ce domaine et qui préconise du coup un nouveau programme sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Réaction du secrétariat d'État au ministre délégué, que sais-je, Portier, son nom, Guillaume Portier, je crois, qui est en charge de... De quoi est-il en charge? De la réussite éducative ou je ne sais pas quoi.
J'en sais rien, moi.
Qui réagit donc à cette réforme proposée du programme d'éducation à la vie sexuelle et affective, qui dit que c'est très dangereux parce qu'on est en train d'imposer la théorie du genre. La théorie du genre, c'est le truc que les pires droitos...
Ah putain, il a ressorti ça comme argument?
Oui.
Wow. On est à l'époque des ABCD de l'égalité. Quoi.
Ouais, c'est
voilà,
ça. On en revient à ce débat.
Donc,
on
s'est fait recadrer par la ministre.
Non, c'est la ministre qui s'est soumise à sa réflexion et qui a dit oh, oui, c'est vrai que quand même, c'est pas ouf. Donc là, toutes les associations, et notamment en tête le planning familial, alertent sur cette prise de parole, puisqu'elle est très inquiétante en fait. C'est-à-dire que on fait un pas en arrière, mais qui est juste hallucinant. Okay, et en plus, on habilite des théories réactionnaires qui ne sont même pas fondées, évidemment. Et donc, au moment où on parle précisément de la culture du viol et comment lutter contre la culture du viol, quand des associations, des journalistes couvrent un procès tel que celui de Mazan, quand la société est prête, effectivement, à avancer dans le bon sens, on a un gouvernement qui fait 75 pas en arrière au bas mot. Et qui s'inscrit dans une logique réactionnaire et qui vraisemblablement n'est pas prêt à lutter contre la culture du viol. J'ai fini.
Tu as fait référence à la théorie du genre, qui est cette expression utilisée par un certain nombre de camps réactionnaires et conservateurs, qui désigne un peu pêle-mêle. C'est un peu un fourre-tout, c'est un peu comme woke. Vous voyez,
oui, c'est ça.
Une espèce de,
c'est très mal
de
défini,
mot
ce n'est pas défini.
Qui désigne en gros le féminisme contemporain, intersectionnel, etc. Voilà, c'est un mot.
Oui, et puis le lobby.
Voilà, le lobby LGBT, etc. Vous connaissez ça.
C'est un mot valise, comme on dit, pour toutes les paniques, enfin une bonne partie des paniques morales.
C'est ça, et c'est un truc qu'on a beaucoup entendu dans la foulée de l'adoption du mariage pour tous, avec le réveil d'un certain nombre de paroles homophobes et de lutte contre les progrès en la matière.
Je suppose que ça plaît beaucoup aux patriotes enracinés.
Les patriotes enracinés, c'est complètement leur truc. Emilio, je crois que, pour en revenir au procès de Mazan, je crois que Gisèle Pellicot est devenue une icône internationale.
Oui, parce que Gisèle Pellicot, c'est un symbole. On l'a vu notamment en une de Vogue Allemagne, avec une très belle une orange, avec une photo en très proche de
close-up.
Une
illustration, ouais.
De Gisèle Pellicot. Et Gisèle Pellicot, elle est devenue le symbole de quoi, finalement? Pour moi, elle est le symbole qu'on avait besoin de sortir de MeToo, dans le sens où du MeToo chez les stars, en fait. Voilà, c'était resté la question du viol chez les milieux plutôt... privilégiés, etc. Et c'est Sandrine Rousseau qui avait cette expression. Le procès de Mazan, c'est la banalisation du viol. C'est le coup porté au not all men. Vous savez, c'est pas tous les hommes.
En fait, le not all men, qui est une expression qui est utilisée par
les hommes pour dire oh là là,
les hommes,
tous,
dis, oh, non, mais
tous,
moi,
tous les hommes ne violent pas.
Mais c'est ça.
Ouais, mais not all men sont not all men. C'est important. Non, mais c'est vrai. Et heureusement,
c'est
d'ailleurs.
C'est une blague très précise.
heureusement, d'ailleurs.
Absolument.
Et parce qu'en fait, quand on regarde le profil des différents accusés accusés donc d'avoir violé Gisèle Pellicot, on se rend compte qu'il y a tout type d'hommes, tout type de profils, notamment socio-économiques, tous les profils d'origine. Et donc, après ce procès, je ne sais pas s'il y aura un avant, un après, en tout cas, il ne sera plus possible de dire que les viols, c'est uniquement les étrangers, comme le fait l'extrême droite, que c'est uniquement le pervers du coin de la rue. Voilà, il se trouve qu'en réalité, Dominique Pellicot, dans un rayon de quelques kilomètres autour de Mazan, il a réussi à trouver plus de 50 hommes prêts à violer sa femme. On n'est pas dans une métropole, on est dans un petit village.
Mais c'est pas des gens qui ont fait des dizaines de kilomètres, hein, c'est, ou voilà. Des centaines. C'est...
Ils sont à côté.
C'est des gens du coin.
Ouais, et il y a de tout, il y a des policiers, il y a des journalistes, il y a des... et donc voilà, c'est la fin du discours. En tout cas, c'est la preuve, en tout cas, que le discours qui voudrait que le violeur, c'est celui qu'on ne connaît pas et qui nous attend au fond d'une rue et qui est un étranger, est totalement un mythe.
Voilà. Mais si je puis me permettre...
Usul, ouais. Ouais, non, je voulais te demander, parce que toi, quand on a préparé l'émission, tu nous disais que tu trouvais que cette affaire, l'affaire des viols de Mazan, a été particulièrement bien traitée par les médias.
Mais très traitée, en tout cas. Très traitée sur beaucoup de plateaux. Mais c'est intéressant, parce que MeToo avait été évidemment très traité sur beaucoup de plateaux, parce que là, on s'intéressait à des puissants, à des gens connus. Et puis ensuite, il y a eu des secousses, des petits MeToo. Le MeToo du stand-up, il n'y a pas longtemps. Le MeToo du patinage artistique, le MeToo. Et secteur par secteur, tout le monde faisait le MeToo du théâtre, le MeToo. Et secteur par secteur, on se disait, bon, le point commun quand même de tout ça, c'est qu'en effet, des hommes en situation de pouvoir, en situation de pouvoir face à des femmes en situation de vulnérabilité, ça produit ces situations d'asymétrie, produisent des violences en fait, et les hommes vont avoir tendance, ces hommes-là en particulier. Et le procès de Mazan arrive en disant, mais en fait, il dit un peu la même chose, mais il dit que c'est n'importe quel homme. Parce que Gisèle Pellicot, quand elle est sédatée, elle est en situation de vulnérabilité totale et avec une alliance en plus avec son mari. Mais le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils sont quoi ? C'est qu'ils sont inscrits sur coco.fr, c'est un site qui a une très mauvaise pub. Hein, là, pour le coup, je ne connaissais pas ce site
moi
avant.
Non plus.
J'ai pas du tout envie de m'inscrire. Et voilà. Mais c'était ça le point commun et qu'ils étaient dans le coin. Non, mais rigolez pas. Non, parce que j'allais dire un truc sérieux. C'est que
fallait pas dire ça, donc.
Non, mais oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, le point commun entre tout ça, c'est et c'est quoi le patriarcat, si ce n'est un système qui place les hommes en situation de supériorité, dont ensuite ces violences ne sont jamais que des conséquences, des prix, des et alors qu'est-ce qu'il faut faire face à ça aussi, si ce n'est essayer de sortir les femmes de ces situations de vulnérabilité. Et on en revient à la question du budget, en fait. Parce que quand tu parlais de 2 milliards et quelques, c'est de permettre aux gens... C'est pas juste... Alors, il y a les trucs qui sont un peu évidents. Former les policiers, c'est toujours... Ça fait quelques années qu'ils disent qu'ils le font, mais enfin, c'est toujours quand même un peu à la ramasse, hein. Déjà, il faudrait déjà les former à être des bons policiers dans l'absolu. Et ensuite, enfin voilà, mais je sais que ça commence à être fait, savoir pour prendre des plaintes. Voilà, et là, ils pourront en prendre à l'hôpital. Voilà. Et bon, il y a des trucs un peu évidents, mais il y a surtout, c'est une question de moyens. Comment tu sors les femmes de la vulnérabilité ? Alors d'abord, peut-être qu'il faut des logements. Enfin, c'est pas peut-être, c'est ce que disent les associations. C'est-à-dire qu'il faut des logements pour qu'une femme qui a envie de se barrer, puisse emmener son gamin, peut-être éventuellement. Il faut peut-être un statut juridique un petit peu aussi différent pour. Il y a des problèmes de la non-présentation de l'enfant, le machin. Comment on aide une femme à se barrer si elle peut se barrer ? Mais il y a aussi la question plus. Ça rejoint aussi la question plus vaste de la vulnérabilité sociale en général aussi des femmes. Et dans un contexte d'austérité économique, il est évident que ça ne va pas s'arranger non plus. Une société plus violente économiquement sera aussi une société dans laquelle ces situations de violence et ces situations d'abus de pouvoir, que maintenant on a bien identifiées, vont aussi pouvoir se reproduire. Et j'ai trouvé en effet que c'était mieux traité cette fois-ci. C'était traité de manière plus... Je voyais plus de remise en question, je voyais plus de généralisation. Et on ne pouvait pas dire « Ah bah c'est le cinéma, ah bah c'est Depardieu, ah bah c'est Gérard !» Et on ne faisait pas venir l'avocat. Il y avait des avocats qui ont quand même eu des plaidoiries outrancières, y compris en dehors du prétoire. Hein. On a vu, je ne sais plus comment s'appelait cette avocate, d'une des victimes, des accusés, pardon. Voilà, qui avait en disant, voilà, en accusant Gisèle Pellicot, vous l'avez un peu cherché, machin. Ces défenses-là n'ont pas eu voix au chapitre, mine de rien, dans les grands médias. On n'a pas invité les gens pour dire, ah bah elle l'a bien cherché.
Elles ont même été dénoncées, finalement.
On a avancé là-dessus un peu, il me semble, quand même. Et en plus, c'est un procès qui a été très couvert. Mais alors, toi, tu m'as dit qu'il n'était pas si bien couvert que ça, à un niveau qualitatif. Mais niveau quantitatif, c'est clairement le procès dont on a le plus parlé. Alors même que y a le procès de Marine Le Pen, on n'en a parlé que quand il a été fini. Là, on a suivi chaque jour Gisèle Pellicot qui allait vers la salle d'audience. Ça a été quand même très suivi, quoi.
Léa, pour conclure,
ça sonne quelque part, quoi.
Bah, pour conclure, espérons que le choix qui a été fait, notamment de la part de Gisèle Pellicot, de sortir du huis clos pour ce procès, précisément pour lutter contre cette culture du viol, ne reste pas finalement un événement avec un petit minuscule, j'allais dire un petit E avec accent, dans le sens où il faut vraiment que ce soit un sursaut. Et il nous appartient à tous, hein, et à toutes évidemment, ce sursaut. Mais tant qu'il n'y aura pas des moyens et une véritable volonté politique de la part du gouvernement, quel qu'il soit, nous n'avancerons jamais. Parce qu'aujourd'hui encore, les associations féministes tirent la sonnette d'alarme en disant à quel point elles sont à bout. C'est pas facile hein, d'être féministe, je vais vous le dire. Hein. C'est précaire, quoi. Et les associations sont vraiment, 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 vraiment dans la merde. Faites des dons, aidez-les, donnez de l'argent. Parce qu'il n'y a que les associations qui accompagnent les victimes. Parce que les victimes qui débarquent dans des commissariats avec soit des policiers qui remettent en question leurs paroles, pour celles qui arrivent à pousser la porte d'un commissariat sans accompagnement, ou celles qui repartent en se disant « Mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je me suis affligé un tel truc ?» Celles qui perdent leur emploi à cause, justement, d'une dénonciation ou autre. Celles qui se retrouvent dans des situations... Mais vraiment, ça a un coût. Enfin, faut le savoir. Ça a un coût social, ça a un coût économique. Ça coûte cher d'aller en justice. Ça coûte très cher. Les avocats et avocates qui, justement, et ce sont plutôt des avocates, accompagnent les victimes, elles sont aussi dans une précarité extrême. C'est un choix. Et c'est un choix qui est coûteux. Coûteux ouais. pour la société dans son ensemble. Et tant que ça, on ne le comprendra pas, et qu'on n'arrivera pas à avancer, et que le gouvernement ne prendra pas sa part de responsabilité, ouais. en fait, ce procès, malheureusement, n'aura peut-être pas servi suffisamment la cause. Et ça, c'est clairement pas de la faute, évidemment, de la victime et des victimes collatérales, parce que je rappelle qu'il n'y a pas que Gisèle Pelicot, sa fille aussi a témoigné de ce qu'elle a subi de la part de son père. Donc voilà, je pense que c'est très important. Faites des dons, soutenez les assos, faites vraiment tout ce que vous pouvez pour qu'on soit plus fort et qu'on puisse répondre aux défaillances de l'État.
On suivra les suites, s'il y en a, de ce procès. Donc je vous rappelle que c'est au 20 décembre, au plus tard, qu'on devrait avoir le verdict de ce procès.